légende, Monsieur Ray, banque de pillage. Monsieur pense que les poulets sont devenus pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.
Pas de prison, pas de prisonniers. NT Cherm sur Radio Galère 88.4, un lundi sur deux, de 20h à 21h.
Trois lundis sur quatre, plutôt.
Ah ouais, boulette. NT Cherm se déchaîne, une émission qui défonce tout, où avocats, flics et sociologues, Curton, Patron, Maton et autres démocrates n'ont pas la parole, mais surtout, ferment leur gueule.
NT Cherm, une émission radioactive où affamés, émeutiers, enfermés, vandales, insoumis, rebelles, cris, rêves et révoltes, rage, colère et haine de ce monde de merde. Prendre les ondes, l'antenne, la parole.
Agir et rire
de voir ce monde s'écrouler.
Ouais, je vous aurais compris, une nouvelle émission de NT Cherm entre tous les enfermements.
Et comme d'habitude, on va donc commencer par les brèves de la guerre sociale qui, en cette période où l'hypocrisie est menée à son comble, ne connaît pas de trêve. Car nous, on n'a rien à célébrer, mais beaucoup à détruire. Alors, même s'il n'y a pas vraiment de lutte sociale bien généralisée, il y a toujours autant de pratiques quotidiennes de révolte qui sont un peu partagées dans le monde entier. Les séquestrations de patrons aux mutineries dans les tôles, centres de rétention et prisons confondus, les ouvertures de squats à l'occupation des CAF et autres services sociaux, des guet-apens contre les condés dans les quartiers aux petits paquets devant les comicos en Grèce, des sabotages de relais TV, comme en Italie la semaine dernière, au saccage d'avenues luxuriantes en Grèce, du refus de travailler aux autoréquisitions. Tout autant de luttes qui sont lourdement réprimées par la menace, par la prison et par de nouvelles lois spectaculaires, anti-cagoule, anti-terrorisme. La France au Chili en passant par la Belgique. Mais quand il y a de la répression, il y a de la solidarité active qui, elle, ne connaît pas de frontières. À Barcelone et à Séville, la semaine dernière, plusieurs banques ont été attaquées en solidarité avec Amadeu Caselas, anarchiste enfermé depuis 25 ans et en grève de la faim, et en solidarité avec une activiste incarcérée depuis 2 semaines accusée d'avoir envoyé un colis piégé à l'administration pénitentiaire locale, mais aussi contre le consulat chilien, en solido avec les insurgés anarchistes chiliens qui rencontrent, eux, les prémices des lois antiterroristes, ainsi que pour les révoltés grecs. À Bruxelles, un tribunal a été bloqué à la glu, en solido avec les Grecs insurgés. À Paris, c'est les vitrines de l'Office de l'immigration qui ont été détruites, et des manifs sauvages qui ont eu lieu dans différents quartiers de la ville, non pas pour dénoncer, mais pour s'attaquer aux représentants de l'ordre et contre leur monde cadavérique. Un cabinet d'architectes ayant en charge la réalisation des nouvelles prisons high-tech a d'ailleurs partiellement pris feu. À Morteau, un chômeur exaspéré par le mépris de l'administration à son égard a effectué une petite visite armée à son pôle emploi. En Italie et aux Pays-Bas, les expulsions de squats ont donné lieu à de longs affrontements contre la police et contre la politique mortuaire de l'aménagement urbain, la même que nous connaissons ici à Marseille. Et le slogan est clair, chaque expulsion sera une barricade. Alors pour finir sur ces brèves, je vais finir par un petit extrait de tract belge. Pour ne pas en rester là, attaquons-nous nous aussi, ici et maintenant, à toutes les formes d'oppression. Pour en finir avec ces vies de misère où les seuls rêves permis sont d'aller bosser 8 heures par jour pour gagner des miettes et s'en contenter, débarrassons-nous de toutes les personnes et de toutes les institutions qui maintiennent leur pouvoir en contrôlant nos vies. Solidarité active avec les enjolés de la guerre sociale de Grèce et d'ailleurs.
Et voilà, donc comme il en a parlé aussi, il est passé par l'Italie, dont on vous avait parlé il y a 2 semaines, d'une manifestation qui devait avoir lieu à Turin, et dont on vous reparlera juste avec un peu après de musique. Donc
métal urbain.
Tout semble à le con. Des multigisurales. Fous ma vie dans ton cul. Se déchire, je t'égorge. Ta vie vaut pas 100 balles. Sale putain dégueulasse. Rejet chez ton coiffeur, un cobra foutu en cul.
Riprendiamo le ostilità. Allora, riprendiamo. On en était à l'Italie, où donc on vous avait lu un texte qui était du... tiré d'une affiche italienne qui appelait à une manifestation, pour le coup, au début assez régionale, contre les intentions d'expulsion des squats de Turin par rapport à donc des nouvelles lois réentrées en vigueur. Elles ne sont pas si nouvelles parce qu'elles ont tendance quand même à dater des années 30, ce qui nous rappelle un bon souvenir. Et qui réapparaissent là sur notamment le choix de chaque maire et donc président de région de choisir des lois particulières sans avoir besoin de les faire accepter par un quelconque parlement ou quoi que ce soit. Donc en Italie, en ce moment à Turin, ils ont décidé d'expulser tous les squats. Entre la première appel, enfin le premier appel qu'on vous avait lu et le jour J de cette manifestation, s'est passé une expulsion dont on pourrait vous parler. C'est un squat qui s'appelle donc l'hostile en fait, qui veut dire hostilité, et qui après un mois de vie s'est vu expulsé. Son expulsion s'est pas fait sans encombre pour la police, puisque ça s'en est suivi une journée entière de blocage et d'émeute, 10 heures d'occupation du toit, plus plusieurs voitures brûlées, et la police a sailli durant plus de 14 heures. Durant cette manifestation, où donc quelques-uns d'entre nous étaient, on va essayer de vous raconter, et notamment un tract qui a été diffusé pour l'occasion dans cette manifestation, qui a été écrit par des individus hostiles, c'est-à-dire en fait les occupants de cette maison, et que j'ai péniblement traduit et que je vais vous lire à présent. Profitez-en bien, parce que cette version française n'existe pas sur Internet pour l'instant. Alors voilà, reprenons les hostilités. Effrayé et dépourvu d'assurance, fatigué et aigri, au point de perdre toute capacité de compréhension et de discernement. Les patrons de l'économie nous voudraient ainsi, parce qu'une population effrayée est une population obéissante et aisément gouvernable. L'économie mondiale est sur le bord de la catastrophe. La guerre continue à moissonner ses victimes entre les faibles et les désarmés. Le progrès avance pour une poignée de privilégiés, pendant que pour les autres, cela signifie vivre dans un enfer d'ordures et de béton. Dans cette grisaille, subissant la propagande d'un régime qui, de manière obsédante et martelante, répète à l'infini les messages habituels de haine et de discrimination, nous devrions accuser les étrangers. Passer sa propre colère et sa frustration sur les plus démunis, voler les miettes dans l'assiette de son voisin est certes une solution confortable. Le fait est qu'il reste une illusion lâche, un mensonge aux courtes vues, qui ne sert seulement qu'à cacher les causes réelles du malaise diffus. C'est-à-dire les ambitions des politiciens, fascistes et mafiosi, la délirante obsession pour le pouvoir d'une clique d'affairistes et de crapules. à Turin, dans le climat généralisé de guerre, la société a trouvé dans ces derniers mois un nouveau bouc émissaire, dans le mouvement des squats et des centres sociaux. Pendant que les militaires ratissent les rues à la chasse aux clandestins, pendant que dans les prisons, dans les casernes, on continue à mourir sous le coup de fonctionnaires trop sûrs de leur propre position sociale, pendant que l'argent des travailleurs est investi en surveillance et en armement. Les racistes de la Ligue du Nord et du PDL, avec la complicité d'une gauche qui ressemble de plus en plus à un brouillon de la droite, ils pointent du doigt quelques épisodes de résistance active. Comme si le problème de la violence politique fût réductible à celle qu'ils ont eu à subir pour une fois. Nous sommes indignés par tant d'hypocrisie et nous ne laisserons pas intimider. Notre détermination est forte et nous serons encore prêts à renvoyer à l'expéditeur toute leur haine et leur peur qu'ils voudraient nous déverser dessus. Ils nous ont annoncé des expulsions, ils trouveront des barricades. Depuis plus de 20 ans, les occupations turinoises sont pour beaucoup de gens des places dans lesquelles il est possible de vivre une socialité différente, une alternative au rapport de force et de soumission qui règne dans toutes les autres sphères de la société. De l'école au lieu de travail, de la famille au siège des partis, de la rue à la télévision. L'occupation récente de l'hostile, en un mois de vie, l'a encore une fois montré, en devenant de suite une place de rencontre et d'autonomie qui a reçu des initiatives de genre différents sur le mode de la gratuité et du partage. Débats et réunions sur les luttes contre les CRA et sa militarisation. Concerts et soirées pour organiser la solidarité dans le quartier et vers les nombreux camarades frappés par la répression. Cinéma et présentation de livres. Un gymnase pour enseigner l'autodéfense personnelle. Un cours d'italien pour les réfugiés du quartier. Et tout ceci a encore été une fois effacé par ceux qui voudraient gérer tout d'en haut. Ou encore une fois en intervenant avec la force brutale de la police, impliquant les habitants du quartier par des jets répétés lacrymogènes, en tapant même sans discrimination sur une dame du quartier qui passait par là, et en rendant une fois de plus un vide stable aux propriétaires légitimes qui ne s'en occupent pas et qu'on n'en a rien à foutre de l'état d'abandon du quartier parce qu'ils n'y vivent pas. Nous ne cesserons jamais de dénoncer les infamies dont se sont rendus coupables les agents, mobilisés pour l'expulsion, qui ne se sont pas contentés d'exécuter les ordres, mais on en fait un peu à leur tête, en crevant les pneus des autos garés dans les alentours, en chiant et en pissant dans le lieu expulsé. Nous voulons rappeler la collaboration des pompiers, aussi dans l'opération, qui ont obéi à la police, et ont aussi fait leur partie en vaporisant à la pompe à eau les véhicules qui transmettaient Radio Blackout. A aussi celle de journalistes qui balancent leur construction fantastique de la longue journée de siège, faisant croire que les habitants du quartier furent tout proches et solidaires des agents de police. Alors qu'à part quelques cas isolés, beaucoup de manières exprimaient sympathie et complicité envers les occupants. Mais la donnée vraiment importante est que l'expulsion n'a pas été tout à fait aussi facile et que la police a dû supporter pendant une journée entière la détermination des occupants et des solidaires. 14 heures de résistance sur le toit et dans la rue. Chaque charge de la police s'est révélée incapable de disperser les manifestants, qui sont à plusieurs reprises revenus en arrière pour encercler les agents de police, en bloquant les rues avec des véhicules renversés et en proie aux flammes. Un petit, très petit bout d'Athènes à Turin. Dans l'avenir immédiat, nous devons nous préparer à affronter une nouvelle grosse vague répressive, dont les expulsions d'endroits relativement jeunes comme le Velena Squat, le Phoenix 3, Caenera et l'Hostile n'en est pas le début. À Catane, le CPO Experia a été expulsé récemment, existant depuis 17 ans. À Ludine, il a été mis sous séquestre le CSA avec bientôt 22 ans d'histoire. À Trent, une expulsion de la hantise, un squat, a comporté 5 avis oraux, de nombreux procès-verbaux et l'assignation à résidence pour 3 des occupants. Toujours, dans les derniers jours, un cortège a été lourdement été chargé à Bologne, mobilisé pour empêcher la tenue d'un concert nazi-rock et ça s'est conclu par l'arrestation de 3 autres camarades à qui va toute notre solidarité. Toujours à Turin, la magistrature a mis sous surveillance spéciale 2 camarades désignés comme leaders des nombreuses protestations qui d'ailleurs continuent à grandir, invalidant le fait des montages policiers des RG. Entre-temps, les affrontements ne se comptent plus. Maintenant, l'État annonce de nouvelles mesures restrictives pour les manifestations et la censure des sites internet les plus gênants. Le début des travaux de sondage pour la réalisation du TAV TGV en Val de Susa déterminera dans les prochains mois aussi une accélération du conflit social et de la résistance. À ce modèle de développement rapace et autoritaire, notre appel est de se préparer encore à faire un grand effort pour s'organiser et de continuer sur la route de l'agitation et de l'hostilité.
Voilà, c'était le tract qui était diffusé lors de la manif. Et ce qu'il faut aussi juste rappeler, c'est que les expulsions des squats, elles ont aussi comme excuse, c'est que en fait, il y a une forte solidarité qui s'organise autour des luttes de sans-papiers. À Turin et ailleurs, dans toute l'Italie, il y a des sans-papiers qui, à peu près depuis près de 2 ans, sont en lutte en faisant des grèves de la faim, des automutilations, des occupations des toits, des destructions des centres de rétention, et qu'il y a une grosse solidarité qui qui s'organisent autour de ça et que justement la volonté d'expulser tous les squats, c'est de casser cette solidarité.
Voilà, à savoir que pour la place de Turin, cette manifestation s'est passée assez curieusement dans un froid glacial avec la neige qui tombe. Elle a fait 4 km au travers de la ville, donc qui partait d'un quartier assez chic de Turin au centre-ville, qui s'appelle la place Statuto, et qui finissait, en étant passé par plusieurs points précis, finissait à un lieu d'expulsion des squats du centre-ville où il y avait le Phénix, qui était d'ailleurs un squat particulièrement militant, qui n'était pas habité, qui était juste un lieu de, voilà, de militance, et où se préparait une grosse résistance face aux camps de rétention et une grosse solidarité face aux retenues, pour les retenues. Et donc, sur la route, a été crié un tas de slogans assez intéressants, du genre si tu toques à la casa, tu brûles la città, si tu touches à ma maison, je brûle ta ville, je brûle la ville, ouais. Avec une grande banderole au tout début, c'était marqué Statu Agitato, qui veut dire restons agités. Avec une bande casquée armée à l'arrière, une bande casquée armée à l'avant, prête à défendre les gens à l'intérieur de ne pas se retrouver roués de coups par une police omniprésente, ultra présente, massivement présente. Il s'avérait au début du cortège que c'était assez effrayant, il comptait à peu près 300 personnes, et qui, au cours de son déroulement, a pu arriver à son plus haut point à plus de 700 personnes, tous assez enrabiatés, enragés, qui, sur leur passage, graffitaient massivement les murs, détruisaient systématiquement les caméras et collaient un tas d'affiches, que ce soit effectivement sur les centres de rétention et sur l'expulsion des squats. Voilà, donc c'était une manifestation qui a fini par assez calmement, dans la joie et un certain calme, après quelques divers projectiles, notamment quelques boules de neige. Puisqu'il neigeait, on s'est caillé les couilles, mais finalement on leur a bloqué la ville pendant plus de 7 heures. C'était quand même un sacré bordel,
voilà.
Un joyeux bordel, et comme on disait, il ne faut pas confondre joyeux et bordel.
Et on va peut-être poursuivre avec une petite musique.
Voilà, donc à Viva Italia, en sachant qu'aujourd'hui il y a l'Asilo 20 ans, El Paso 25 ans, El Barocque 15 ans, qui sont sous le coup d'une éventuelle expulsion. À savoir que si ces derniers trois squats vieux et anciens pour Turin et aussi pour toute l'Italie, puisque ce sont des squats non légalisés, je le rappelle, contrairement aux centres sociaux, qui sont quand même une particulière au mouvement, ça va sûrement chauffer même s'il neige.
I won't ever slack up, honky better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up, touch the ceiling. Monsters are bunk up, someone's talking junk. Yo, I'll bust them in the eye, and then I'll take the punks out. Feeling funky, amps in a chunk. And I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donuts shop. Sure enough, I got props from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get down your seat and jump around. Jump around. Jump around, jump around, jump up and get down. I'll serve your ass like John McEnroe. If your girl steps up, I'm smacking the hoe. Word to your moms, I came to drop bombs. I got more rhymes than the Bible's got songs. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle with a shotgun. But if you do, you're a fool, cause I do to the death. Trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. Or better yet, a Terminator, like Arnold Schwarzenegger. Trying to play me up like as if my name was Sega. But I ain't going out like no punk, bitch. Get used to one style, yo, when I might switch it up. Up and around, then buck, buck, get down. Put out your head and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I wet ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down.
Tu t'étais dit, ce ne sont que des femmes. Pourtant, tu as été obligé de céder. Agnès et Colette resteront parmi nous. Dans les ateliers, ce ne sera plus comme avant. Nous aurons notre mot à dire. Tes contremaîtres ont perdu de leur arrogance, et pour cause. Fini les négociations sur notre dos. Tu devras accepter ce que nous serons imposés. On sait que tu n'as pas digéré ta séquestration. On sait que tu vas essayer de licencier. Toi et ta presse, vous avez crié au scandale, faisant appel à la légalité. Ta légalité à toi, c'est séquestrer les ouvrières depuis le bureau d'embauche en pleine jeunesse jusqu'à la sortie du tunnel où nous attend le chant des chrysanthèmes. Notre légalité à nous, c'est la justice populaire. Et celle-là, elle est à cran d'arrêt. Tu vas essayer d'éliminer ce que tu appelles dans tes rapports les meneurs. N'oublie pas que notre plus grande victoire, c'est l'unité que nous avons forgée dans la lutte, avec nos propres forces. C'est l'unité avec nos maris qui ont pris conscience de nos luttes de femmes. C'est l'unité avec les autres usines. Et notre combat fait tache d'huile. Et s'il le faut, un jour fera tache de sang. N'oublie pas, le plus important, ce n'est pas encore ces mesures que nous t'avons arrachées. Le plus important, c'est ce qui a changé dans nos têtes. Nous avons pris le droit de parler, le droit à l'action. Ces droits que depuis toujours, vous les patrons, vous réservez pour mieux nous asservir. Et pour ces droits, nous nous battrons avec violence, pour les conquérir, pour les garder, jusqu'à ce qu'un jour, vous ne les ayez plus.
Vous êtes toujours sur ND Chaîne 88.4 Radio Galère et le passage que vous venez juste d'écouter, c'est la fin d'un film qui s'appelle Coup pour coup, qui raconte une grève dans un atelier de couture. Alors je sais plus dans quelle ville, mais c'est pas très important.
Ça aurait pu se passer dans n'importe quelle usine. C'était dans les années 70. On vous l'a déjà passé. C'est plus qu'émouvant et les mots sont plus que justes.
Et ça pourrait encore se repasser.
Voilà, et donc c'était pour introduire le sujet qu'on voulait un peu aborder, c'est sur Vireux, qui est un montage qu'on a réalisé à partir d'un document sonore qui a été fait entre 2005 et 2006, qui s'appelle « Ça coûtera cher de nous foutre en l'air », qui est en trois parties. Vous pouvez trouver les trois parties sur Internet en tapant « Ça coûtera cher de nous foutre en l'air ». Et en fait, c'est l'histoire de deux luttes qui se sont déroulées dans les Ardennes de 79 à 84. La première, c'était contre l'implantation d'une centrale nucléaire à Chaux, et la deuxième, contre la fermeture de l'usine métallurgique de Vireux.
Et donc voilà, c'est des interviews d'anciens sidérurgistes et de personnes d'ailleurs qui ont pris part à ces luttes. Et ce documentaire, bon, il se veut pas objectif, il développe certains aspects pour mettre en lumière des contradictions qui peuvent faire écho à des questionnements qu'on a aussi actuels.
Et nous, dans juste le passage qu'on a conservé de ce documentaire sonore, on a pris essentiellement la partie numéro 2, c'est-à-dire la partie sur les actions et les rencontres qu'elles ont permis. Et peut-être avant de commencer de vous balancer le documentaire, on va juste vous faire un petit espèce de compte-rendu historique dans lequel ça s'est passé, le contexte historique plutôt. Et en fait, ça a commencé en 79 avec le projet d'extension du premier réacteur de la centrale de Chaux qui a été construit en 62. Et contre ce projet, il y a eu la création du comité antinucléaire à Chaux. Et face à ça, donc, il y a eu des actions avec des manifestations, des occupations de la mairie, des blocages de routes, des sabotages d'engins de prospection.
Voilà, et ça continue en 80. Il y a une enquête publique qui est menée pour l'implantation de la centrale. Et face à elle, ben, des résistances qui s'organisent.
En 81, le projet est accepté et la mobilisation continue. Elle s'intensifie même avec des manifestations, des occupations, des fêtes anti-nucléaires, des nombreux sabotages, des tags, des bris de vitrine. Enfin bref, je vais pas faire toute la liste. Et en décembre, la décision est prise d'organiser des manifestations tous les derniers samedis du mois. Et à ces manifestations, il y aura énormément de gens issus de milieux différents qui vont se retrouver.
Voilà, et en fait, en 82, à Vireux, qui est donc à côté, il y a l'annonce de la fermeture de l'usine de métallurgie, et donc c'est là que ça va commencer à rassembler deux luttes différentes, parce que face à ça, il y a des résistances qui s'organisent, et donc la création d'un groupe clandestin autonome et critique vis-à-vis des syndicats et de leurs moyens de lutte.
Donc voilà, c'est à ce moment-là que les deux luttes se rejoignent dans les manifestations du dernier samedi du mois. La répression est forte, avec de nombreuses chasses à l'homme, des arrestations, des tabassages, l'occupation militaire de Chaux, des arrestations, ouais, je l'ai dit.
mais ça fait pas céder la résistance et au contraire, les révoltés développent des techniques de sabotage en détournant leur outil de travail, donc de l'usine en grève occupée.
Alors il y a des incendies, des alertes à la bombe, des sabotages, des saccages, des barricadages, des blocages des routes, des bris de vitrines, des manifestations, des affrontements avec les keufs, des séquestrations.
Et donc lors d'une manifestation, il y a à peu près 300 personnes qui mettent le feu au château de la Buchère, qui est donc la propriété de la direction. Les pompiers compréhensifs n'interviennent pas.
Il y a aussi la création d'un journal et d'une radio composée de sidérurgistes et d'antinucléaires pour contrer la désinformation des médias. Et les tentatives de négociation échouent, les affrontements et les actions continuent jusqu'à peu près en 83, même après la fermeture de l'usine.
Voilà, donc ça a duré un certain temps et on a choisi de vous passer ce montage sur ces événements à Vireux et à Chaux, pas seulement donc pour vous faire le compte-rendu d'un moment de lutte précis, mais surtout parce que ce contexte particulier, comme plein d'autres, il a permis la rencontre de personnes de milieux différents. Donc il y avait les antinucléaires, il y avait les sidérurgistes en grève, et il y avait des gens issus du milieu squat qui se sont ralliés à eux. Et donc parce que le récit de ces événements, par les gens qui les ont vécus, montre bien que ces échanges et ces solidarités et les partages, ils existent et ils sont rendus possibles par une lutte commune. Voilà, le montage donc.
J'accepte de parler un peu, c'est pour qu'il reste des traces, parce que ça va s'effacer. On se bat contre quelque chose qui est imbattable, le pouvoir. Et le pouvoir a fait qu'ils avaient décidé de fermer cette usine. À Vireux, ça a duré 2 ans, grâce à la population, grâce aux gens qui sont venus participer à nos mouvements, des gens de l'extérieur, comme on dit, pas forcément des mauvais, comme ça a pu être dit par l'État. Tous les gens ici étaient déterminés et ils pouvaient mettre 1500 CRS. Ça ne servait à rien. Ce qui était fait, je pense qu'il fallait le faire. Pour les tripes. Pour pouvoir se regarder dans une glace le matin, en se levant. Les manifs ont permis à des gens de se connaître au travers du souci que tout le monde partageait et que tout le monde avait envie de montrer. Et maintenant, ça a laissé les gens sans motivation, avec beaucoup de désillusions sur l'avenir. Les événements de la chair, c'est inoubliable. On ne peut pas l'effacer, parce que ça fait partie de ma vie. Une grande partie de ma vie. Et ça fait partie de mon village.
En 81, on entend parler pour la première fois de cette lutte antinucléaire qui est à Chaux. Et on décide d'y aller. Alors, on c'est qui ? On, à l'époque, c'est une bande de squatteurs du 20e arrondissement. Et donc, on a ces échos de cette lutte antinucléaire. On allait dans ces endroits-là pour se chercher, se trouver des complices. Pour nous, dans une perspective qui était, on va employer le mot, de toute façon, c'est ces mots-là qu'on employait nous à l'époque, quoi, qui était dans une perspective révolutionnaire. Alors, il faut pas oublier que c'était simplement une douzaine d'années après 68, quoi. Que maintenant, ça peut sembler très très loin. Mais à l'époque, 68, c'était quelque chose de récent. Il y a un deuxième paramètre de cette époque qui est important aussi. Mitterrand venait d'être élu. Pour énormément de gens, la victoire de la gauche, c'était la victoire de 68, quoi. Bon, ça c'est important parce que ce qui se passe ensuite justement avec les ouvriers de la chaire, etc., c'est la première lutte ouvrière et une des premières luttes tout court même qui a du temps des socialistes. Quand on est revenu sur la région parisienne, la première chose qu'on a fait nous justement, c'est d'en parler. Ce qui fait que la fois suivante, quand on y est revenu, on était bien plus nombreux. Parce qu'il n'y avait pas que nous qui ramenions de plus en plus de monde, il y avait tous les autres aussi. Et ça venait effectivement, bon, surtout de la région évidemment, mais de bien plus loin. Et ça, c'était assez remarquable aussi, cette disparité géographique, quoi. Voilà comment ça se passait, en fait. C'est-à-dire que les flics se pointaient à chaud pour protéger la centrale. Il y avait des barrages qui se mettaient en place au niveau de Vireux. Les flics démontaient ces barrages, ces barricades, passaient, allaient à chaud. Les gens de Vireux refaisaient les barricades. Au retour des flics de chaud, rebelotent. Et donc, que ce soit à l'aller ou au retour, ça se passait avec fracas, quoi. Avec comme premier objectif, en fait, de tenir le plus longtemps possible, c'est-à-dire pour faire chier les flics, bien sûr. Et puis, mais tenir le plus longtemps possible, ça voulait dire aussi que tous ces gens qui étaient là à Vireux, ensemble, derrière les barricades, à les construire, etc. Et pendant ce temps, ils se parlaient, évidemment. C'était du temps conquis, du temps de parole, et du bon temps, en plus, du temps où franchement, on s'amusait bien, quoi. Où le jeu, là, il se mêlait à la guerre, on peut dire, quoi. Il y avait un aspect très sérieux, hein, parce qu'il faut voir qu'une usine de sidérurgie, c'est quasiment un atelier de fabrication d'armement, quoi. Et l'usine, elle était aux ouvriers qui l'ont ouverte à nous, hein, à tous ceux qui venaient et d'où qui viennent, ce qui était franchement étonnant, hein, puisque moi je me souviens par exemple que dans d'autres luttes où on avait pu aller, que ce soit à Longwy ou dans d'autres endroits comme ça, c'était extrêmement difficile de rentrer dans les usines, quoi. D'une part parce que les syndicats faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour nous en empêcher. On réussissait à y rentrer, mais plutôt discrètement, avec la complicité de certains, etc. Mais là, à Vireux, c'était vraiment porte ouverte, quoi. L'usine était elle était à nous, quoi. À nous, à eux et à nous, quoi. Toutes les machines, les tours, les outils, les machines de l'usine étaient détournées pour justement fabriquer des armes, des outils d'attaque ou de défense, dans des trucs assez élaborés, quoi. Les types, ils avaient fabriqué des lance-coques. Alors, en plus, cette route, elle passait dans une vallée, en fait, dans le creux d'une vallée, qui était donc entourée de petites montagnes, quoi. Et à partir desquelles, justement, ils bombardaient les convois de flics. Ils avaient fabriqué des bazookas, c'est un terme trop fort, mais des espèces de lance-projectiles qui étaient très puissants et qui balançaient toute la ferraille et les débris de ferraille possibles et imaginables qu'on peut trouver dans une usine de ce genre. Les barricades elles-mêmes, c'était des barricades, je me souviens par exemple, qui étaient faites avec des lingots d'acier, des trucs qui pesaient entre 1 et 2 tonnes, que tu pouvais bouger qu'avec des fanwick. Quand on mettait quelques dizaines pour barrer la route, c'était une sacrée entreprise après pour les flics de les enlever. Tu vois, ils étaient obligés de venir avec des bulles, avec du gros matériel, très escorté donc évidemment, parce que on se mettait pas derrière la barricade à les attendre. Hein. Elle était défendue de positions qui pouvaient être de l'intérieur de l'usine ou justement des petites hauteurs avoisinantes, ou sinon de tout le village lui-même, sur toute la longueur du village, sur peut-être 1 kilomètre ou 2, quoi. Il y avait des dizaines de groupes qui attaquaient les convois à leur passage. Et d'ailleurs, c'était un petit peu où il y avait une espèce d'émulation de samedi en samedi et entre les groupes, à ceux qui allaient inventer les moyens les plus drôles ou les plus efficaces ou les plus... pour les bloquer le plus longtemps possible, pour leur faire mal, pour... Il y a 10 000 anecdotes qui seraient drôles à raconter sur... bon, moi, je me souviens d'histoires, par exemple, avec des gamins de 12 ans, 10 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, qui avaient réussi, par la ruse, à grimper dans les camions de matériel des flics et à leur piquer des caisses de grenades, et qui les avait amenés aux adultes, on va dire, qui se sont servis pour les renvoyer à l'envoyeur.
L'histoire du matériel, hein, du matériel, même militaire, on peut appeler ça comme ça, c'est une vraie jouissance. Hein. Mais oui, parce que faut pas se leurrer, enfin, je veux dire, tu luttes, mais t'es toujours à armes inégales, donc ouais, tu perds ouais, toujours. Ouais, c'est vrai. Mais alors, quand t'as des types qui te sortent des lingots d'acier, tu vois, puis ouais. que t'es capable de tenir un barrage et où les flics ne passent pas pendant toute la nuit, mmh. eh ben là, tu jouis, quoi. Il mmh. n'y a pas d'autre mot. Parce que là, c'est vrai que tu mesures à quel point ils sont fragiles. Parce que la détermination, elle est complètement autre. Par exemple, là où on jubilait, alors peut-être on se racontait des histoires, mais peut-être pas. Mais on apprenait, alors on savait pas trop comment, par la presse, par la bande, que certains d'entre eux faisaient des crises de jaunisse tellement ils avaient la trouille. Et nous, ça nous faisait... on n'en pouvait plus, tu vois, quand on apprenait des trucs comme ça. Et ça, ça fonctionne. Enfin, moi, je pense que c'est... En même temps, c'est de la jouissance guerrière, quoi. C'est-à-dire que t'es dans la guerre, hein. T'es vraiment pas dans autre chose, quoi. T'es dans le plaisir de la guerre, quoi.
Et l'usine aussi, on se demandait, elle a été ouverte aux personnes extérieures, aux personnes qui n'étaient pas de l'usine, qui n'étaient pas ouvriers, ou oui, même oui. du village.
Bien sûr.
On voulait savoir comment.
Eh oui, mais à partir du moment où la route est bloquée pour les CRS, elle est bloquée pour tout le monde. Et quand vous avez je ne sais combien de CRS qui vous courent après, il fallait bien se réfugier quelque part. Et ça a été ouvert, ça n'a même jamais été fermé. Ça a été ouvert automatiquement. Ça a été fermé qu'aux CRS. Mais ils ne sont pas gênés pour rentrer quand même. Hein, mais sinon, tout le monde rentrait dans l'usine. Il n'y avait rien à voler d'abord. Hein, il n'y avait plus de production. Oui, tout le monde rentrait. Il fallait bien se mettre à l'abri. Il n'y avait pas d'organisation. Il y avait l'organisation en bas pour bloquer le pont. Et le restant, tout le monde était là. Il n'y avait pas de chef de groupe ou chef de bataillon ou quoi que ce soit. Hein. C'était, personne ne commandait personne. Hein. Je pense que ça n'aurait pas marché de toute façon s'il y avait quelqu'un qui avait voulu commander l'ensemble. Et puis chacun voit la chose à sa façon.
Il faut bien comprendre les affrontements, c'était un truc assez barjot, puisqu'on était en gros entre 500 personnes et des fois 200. Et en face de nous, il y avait des blindés, des hélicoptères, c'était disproportionné. Eux, ils arrivaient vraiment en truc de guerre, et nous, en face, on était préparés à ça. C'est assez étonnant, mais et je le regrette, mais j'ai passé des heures à tenir une barricade ou à monter des guet-apens avec des ouvriers, mais on n'a pas parlé politique 5 secondes. On n'a pas discuté de la lutte, on a parlé de tout, de rien... Ça, c'est sur les rapports. Après, tu vas sur une barricade, t'as les gens, tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, ils ont, toi, t'as 18 ans, ça pourrait être ton père, ils sont là, t'as des femmes qui arrivent en portant des caisses de sandwich, des grosses gamelles de soupe, et c'est le truc spontané, c'est pas le truc qui a été organisé par le comité attaque du coin, c'est les gens qui font ça. Et évidemment, ça donne des rapports complètement différents. C'est une ambiance qui a rien à voir avec une ambiance de n'importe où ailleurs. Et je peux dire une atmosphère où l'entièreté des pensées des gens sont tournées vers l'affrontement et donc vers les moyens d'y parvenir et donc vers la solidarité et le fait d'être réellement une collectivité. Il y a un sentiment collectif. Parce que justement, il n'y a pas de stratégie, c'est pas une bataille à la romaine où les gens ils avancent en ligne, il y a des ordres, machin. Donc c'est que des initiatives individuelles, mais c'est des initiatives individuelles qui tiennent compte du fait collectif.
Alors ça, les manifestations de chaque mois, on avait 4 semaines pour se préparer finalement. Chacun dans son petit coin organisait un petit peu des choses. Bon, il n'y a pas eu de mots, on a eu de la chance, hein, parce que ça a quand même cartonné très très fort, hein, faut savoir que ça a très très cartonné. Bon, puis il y a toujours envie de casser du CRS, hein, c'est comment ça marche. Hein. Mais bon, chacun dans son petit coin, bon, préparait des choses, quoi. Bon, voilà, c'était la fronde, souvent c'était la fronde, un peu de cocktail Molotov, hein, naturellement, fait partie du lot. Et puis bon... Tout ce qui était matériel de transport. Les lingots d'acier, puisque les lingots, il fallait bien qu'ils viennent de quelque part, donc ils étaient sur place, autant les prendre. Bon, quelques wagons aussi pour barrer la route, ça va tout seul, puisque la voie ferrée traversait la route, donc autant mettre deux wagons, ça va vite à pousser. ça mange pas de pain, quoi. Bon, mettons, s'il y avait une manifestation le week-end, bon, le lundi matin, moi, je travaillais aux Laminois, donc on faisait des barres d'acier qui allaient de 10 à 150, hein, de diamètre, hein. Le 10, le 12 et le 14, toutes les chutes, c'était fait en petits morceaux, hein. On mettait la cisaille en route, on faisait, à chaque coupe, on faisait 30 ou 40 projectiles. Et puis on faisait ça pendant une heure et demie, donc on avait des sauts pleins, hein. Ça, bon, c'est normal, on avait sur place, c'est ce qu'il fallait, quoi. Il y a des gens qui venaient aussi là, qui venaient manifester, puis qui repartaient chez eux, puis il y a ceux qui restaient, ceux qui venaient pour passer le week-end dans la pointe. Hein. Il y avait une bonne ambiance familiale, quoi. C'était, c'est ça, finalement. Une manifestation, c'est ça aussi. Hein. C'est l'esprit de se rencontrer, et puis d'être ensemble, de dialoguer, puis après, au moment donné, ben, il y a un coup dur à faire, bon, on fait. Mais bon, moi, j'ai trouvé ça très, très, très familier, très festif, quoi.
Mais c'était des gens assez différents finalement qui, oui, qui se retrouvaient à Vireux.
Oui, complètement différents, là, vraiment. Nous, c'était plutôt des gens, des travailleurs finalement. Nous, on travaillait du père en fils, donc voilà. Que ces gens-là, bon, c'est des gens qui étaient à l'école, c'est des gens qui... C'est vraiment pas la même classe sociale, si on veut. Avec des idées, bon, chacun ses idées, quand même, bon.
Et en fin de mois, ça transforme quand même complètement le village. Et comment est-ce passée cette transformation?
C'est du tout simple, de l'automatique, du normal. Mm. C'était le jour de la manif, tout le monde était là, c'est tout. Vendredi, c'est le marché, vous allez au marché. Là, vous alliez à la manif.
C'est tout. Tout le monde marchait.
Voilà. Ça mettait un peu d'animation.
Et ça se passait comment avec, avec les gens de l'extérieur, quoi?
Aucun heur. Tout simple, tout doux, tout coulant. Ben, je ne pense pas que c'était si différent que ça, hein, en fin de compte. Non, ils défendaient une idée, on en défendait une autre. Les deux idées se sont rejointes. Et puis c'est tout. Les extérieurs.
Nous, ceux qui sont venus ici, on n'a jamais eu de problème. Hein.
Jamais. Non,
non. Bon, la seule différence, c'est que bien souvent, ils avaient des grands cheveux. Oui. Et c'est tout. Voilà. C'était la seule différence.
Il y avait,
hein.
Il y avait plein de fleurs sur les camionnettes, ouais. Mais c'est tout. Hein.
C'est différence.
Il n'y avait rien d'autre.
Et d'une manière générale, les gens de Vireux, ils voyaient ça comment, le fait qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent
Ouais, c'était au départ, c'était un peu bizarre quand même. Hein. Ou après, ça a été, hein, quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas là pour casser ou pour foutre le bordel ou voler des poules, quoi. Hein. Hein, c'est tout. Hein. Non, non.
Je crois que les gens se méfieraient plus maintenant
qu'il
y avait
un temps. C'est sûr.
C'est pas du tout la même mentalité. Non.
Et les heures d'attente, justement, en bas, sur la route, à bloquer la route, à attendre.
Oui, mais ça passait vite, là.
Bah, vous ouais. Savez, quand on est beaucoup de monde comme ça, que tout le monde discute, on voit mais pas le temps passer.
Pas,
hein.
Oui, il n'y a pas de, y a pas de tout, longueur. Hein. Hein.
Tout le monde mettait la main à la
pâte. Oui, oui, bien sûr. Tout le patelin. Hein.
Ah oui, question de ça, tout le monde partageait tout, quoi.
Mmh. Les balais, ouvrir les sacs à dos, il y avait toujours quelque chose dedans. Quoi. C'est pour ça, vous demandez comment on s'est rencontrés. Bah, comme ça, hein, tout simplement. Hein. Quoi qu'on en dise, on n'a jamais vu de mardi ou de délinquant. Bon, les discussions, bah, ça, au moment des manifs, ça tournait, la discussion tournait sur la manif, quoi. Hein. Sinon, si on avait un peu de temps, bah, on parlait un peu de la vie courante, de ce qu'ils faisaient. Hein, bien, c'est beaucoup d'étudiants, vous demandez ce qu'ils faisaient. Ils demandaient qu'on vous, ça demandait ce qu'on faisait à l'usine, des trucs comme ça. Ça discutait comme ça, hein.
Je voulais revenir sur ce que tu disais quand on s'est vu la dernière fois, sur le fait que justement la maison ici elle s'est transformée, c'est qu'il y a plein de gens qui passaient.
En champ de bataille.
C'était le squat ici.
Oui.
Pourquoi tu avais décidé d'ouvrir ta maison à tous ces gens-là?
C'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient bien. Puis il y en avait de ceux qu'on n'avait pas spécialement envie de voir quand même. C'est vrai, comme tout. Hein.
Ouais. Mais enfin, ils n'ont jamais été mis dehors quand même.
Non, ils n'ont jamais été mis dehors. Parce que de toute façon, s'ils avaient pas... il n'y avait pas que notre maison, il hein, ne faut c'était, pas croire. Hein,
c'était,
y avait...
c'était bourré un peu partout.
C'était bourré partout. Hein, les gens, bon, bah, ils arrivaient, bon, bah, ils se mettaient à table, et puis ils ne repartaient pas. Quoi, c'est tout, c'était c'est comme tout. Ça. Mais de toute façon, il fallait bien les coucher. Ou alors on les mettait avec les CRS dans la rue.
C'est quand même ici qu'il y en a eu
c'est plus. C'est tout.
Il y avait vraiment des gens ensemble, quoi, des gens qui se battaient ensemble, et à toutes raisons confondues. Alors, ces raisons, de toute façon, et ça c'est vraiment la chose qui était la plus passionnante et la plus intéressante qui s'est passée là-bas, ces raisons, justement, elles se sont très vite mélangées et ben, dans la rencontre. À partir du moment où il y avait des ouvriers qui se mettaient à discuter avec
des chômeurs qui pouvaient venir de Paris, ou avec d'autres sidérurgistes qui pouvaient venir de Belgique, ou avec des gens qui étaient anti-nucléaires, mais qui étaient aussi des gens qui avaient un travail, des conditions de vie qui leur plaisaient pas, etc. À partir du moment où toutes ces raisons-là se sont mises à s'échanger, très vite, la critique, justement, elle s'est mise à englober énormément de choses, quoi. C'est-à-dire, on parlait de tout, mais vraiment de tout. Du système, de la vie quotidienne, du travail, etc.
Ce qui s'est quand même passé sur le versant de la non-rencontre, c'est que c'était quand même beaucoup de gens qui vivaient en marge, qui n'étaient pas du tout insérés dans le monde du travail, qui n'avaient pas ce genre de valeurs et qui luttaient parce que la lutte était importante dans leur vie. Et qui pouvaient se sentir solidaires des gens de chaud qui tout d'un coup se faisaient militariser complètement, imposer quelque chose de complètement aberrant. Mais le seul point commun, il était là finalement, parce que il y avait des modes de vie qui étaient complètement différents. Hein, il rencontrait des gens à chaud, qui avaient toujours bossé, qui remboursaient des crédits, qui étaient embringués dans un mode de vie qui, par ailleurs, était même combattu. Et ça s'est retrouvé aussi par rapport à Vireux. C'est-à-dire, alors pour prendre mon exemple personnel, en plus j'étais quand même jeune, moi j'avais comme seul objectif de jamais travailler de ma vie, et j'étais à des années-lumière d'un mode de vie bien réglé, où justement il fallait se démerder pour rembourser un crédit de bagnole ou un crédit de maison, et où si on se retrouvait mis à la porte du boulot, tout s'effondrait. Et là, il y a eu une non-rencontre, parce que pour les gens de chaud ou de Vireux, de se retrouver confrontés à des gens qui étaient plus jeunes qu'eux pour beaucoup, et puis qui combattaient ce que eux-mêmes vivaient dans leur quotidien, c'était Mars. C'est-à-dire qu'on pouvait discuter sur certains sujets, être d'accord et en réunion avoir des objectifs communs, voir les choses de la même manière au niveau de la lutte et tout ça, mais au niveau des modes de vie, certainement pas. Et c'est là qu'il y a une rencontre qui ne s'est pas faite. Ça a été extrêmement difficile, parce qu'en même temps, ça venait complètement bousculer leurs valeurs, et nous aussi, on avait nos valeurs qui étaient bousculées. Parce que quand on venait soutenir les ouvriers de la chière, en même temps, il y avait plein de revendications dans lesquelles on ne pouvait pas se retrouver. C'était inconciliable, enfin, il y avait des aspects qui n'étaient pas conciliables.
Comment je suis arrivé à Vireux? C'est une histoire où peu à peu, après avoir milité dans un grand parti politique bien connu de tout le monde, le Parti communiste français, que j'ai quitté en fait dans les années 70, m'être promené un peu dans l'extrême gauche et avoir rencontré plus ou moins des gens plus ou moins intéressants. À cette époque-là, et même aujourd'hui, quoi, je suivais pas un groupe particulier, quoi. Mais du coup, à pas suivre un groupe particulier, tu pouvais te mélanger avec plein de groupes. C'était relativement ouvert, quoi. C'était possible. Et là-dessus, on était pas mal, en fait, à considérer qu'il fallait soutenir ce genre d'action où les gens ils mouillaient la chemise, même si effectivement, en y réfléchissant bien, Une fois qu'ils allaient atteindre leur but, ils iraient pas forcément beaucoup plus loin, mais au moins pendant la période des affrontements, pendant la période d'émulsion où on savait pas ce qui allait se passer, il se passait des rencontres, il se passait des discussions. Moi, je me souviens d'une discussion c'était un père de famille, un mec qui avait 20 ans de boîte à Vireux dans sa tôle, et je me souviens comment il comprenait pas, quoi. Il était dégoûté, il comprenait pas que pour lui il avait tout bien fait, il avait été sage à l'école, il avait été à l'armée, il avait commencé à travailler à 19-20 ans, et puis il travaillait, il a eu des enfants, il avait acheté le pavillon, et puis voilà, on lui disait non, tout ça c'est fini. Ce mec là il me disait, regarde, tu vois, c'est incroyable, il y a des gens qui viennent nous aider. Il parlait d'un sidérurgiste belge
qu'il avait hébergé, qui était en fait d'origine polonaise, et qu'il avait hébergé sûrement un des samedis d'avant. Et il me disait, mais tu te rends compte comment on peut être? Je l'ai amené chez moi, il a dormi chez moi, et pendant toute la nuit, j'ai pas dormi, parce que j'avais peur qu'il me vole toute la maison et tout. Et en fait, lui-même se rendait compte, ça l'avait complètement chamboulé, ce mec-là.
Ça va être un peu dommage pour cette interview, mais moi, j'ai eu très très peu de contact avec les gens de Chaux ou de Vireux. On était peut-être trop nombreux, on arrivait trop en groupe, donc on restait en groupe. C'était pas du tout des groupes fermés, il y avait beaucoup de circulation, mais c'était... Enfin, on se parlait, etc., mais il n'y avait pas d'échange, de débat, il n'y avait pas d'assemblée, il n'y avait pas... Enfin, moi, il y en avait peut-être, mais j'ai jamais assisté à ces assemblées. C'était très convivial, mais c'était... On n'était pas comme eux. On n'était pas comme les ouvriers de Vireux. Mais il n'y a jamais eu, j'ai jamais vu la moindre réflexion, le moindre regard vis-à-vis des potes rebeux qui étaient avec nous. Jamais. Ou pas vis-à-vis du fait qu'on ait un look punk ou je sais pas quoi. Moi, je sais que sur le rapport avec les femmes de Vireux, elles avaient leur place dans la lutte. Elles étaient sur les barricades, quand ça chauffait pas trop. Elles participaient aux discussions, elles étaient dans les rigolades, elles étaient dans l'élaboration des barricades, dans les choses comme ça. Mais elles avaient quand même leur rôle. Elles faisaient la soupe, machin, etc. Un truc qui illustre bien, à mon avis, les rapports avec les gens de Vireux, et je sais pas trop quoi en penser, hein. Bon, attends, je livre brut comme ça. On est en train de ramper derrière un parapet pour attaquer les flics par derrière. Alors, c'est une situation, alors tout le monde se fait des sourires, il y a une super ambiance entre les gens, on est en vraiment de faire un sale coup, quoi. Et le mec, qui est là, qui est en train de ramper devant moi, qui se retourne, il fait, alors, qu'est-ce qu'on se marre, ça me rappelle l'Algérie. Et ça jette quand même un froid, quoi. Ça jette un froid, et c'est le paradoxe des deux côtés, quoi. C'est, tu vois, c'est vraiment des deux côtés. D'un côté, t'as un mec qui te sort ce truc qui est sidérant de beaufitude. Alors, tu peux dire, ouais, mais alors, ces gens-là, c'est des cons, mais c'est... Moi, je me suis surtout dit l'inverse. Je me dis, putain, même le dernier des cons, il a une capacité de révolte, il est possible de faire les choses les plus fantastiques avec lui, quoi.
Gimme, gimme, gimme! I need some more! Gimme, gimme, gimme! Don't ask what for, 1, 2, 3, 4. Standing here like a loaded gun, waiting to go off. I've got nothing to do but shoot my mouth off. Gimme, gimme, gimme. Gimme some more. Gimme, gimme, gimme. Don't ask what for. I'm gonna go out, get something for my head. If I keep on doing this, I'm gonna end up dead. So gimme, gimme, gimme. Gimme some more. Gimme, gimme, gimme. Don't have some more. I know the world's got problems. I got problems of my own. Not the kind that can be solved with an atom bomb. So gimme, gimme, gimme. Gimme some more. Gimme, gimme, gimme! I need some more! Gimme, gimme, gimme! Don't ask what for! 1, 2, 3, 4! Standing here like a loaded gun, waiting to go off. My God, nothing to do but shoot my mouth off. So gimme, gimme, gimme! Gimme some more!
À tous ceux qui nous servent et nous resservent le même réchauffé. D'une nature humaine indépassable et surtout indéniable, qui dans le désordre et le chaos reprendrait le dessus sur tout. Une nature humaine faite de la loi du plus fort, où œil pour œil et dent pour dent ne laisserait place qu'à la misère et à la guerre, au viol, au meurtre et au crime, à la corruption et à la bassesse. Cette description ressemble tellement au monde dans lequel nous vivons et à la nature de ce putain de monde. Comment cela pourrait être la nature humaine, primaire, grégaire, innée, alors qu'on nous l'apprend tous les jours et partout, à croire que ce monde n'est que désordre et chaos. Alors la nature humaine, c'est quoi? Ce serait quelque chose qui apparaîtrait inévitablement dans ces moments de flottement. Des moments de flottement que j'ai vécu au travers des manifestations, d'occupations, de grèves, de mouvements sociaux, d'émeutes, de révoltes plus ou moins violentes. Et j'y ai vu tout autre chose. Quand on n'est pas sous le coup d'un ordre supérieur, d'une autorité militaire ou scientifique, financière ou politique, policière ou étatique, quand notre responsabilité individuelle est un déplié de notre liberté collective, quand notre survie individuelle dépend de la vie collective, quand et quand et quand et quand tout ne tient plus qu'à nous, alors apparaissent tout d'un coup des attitudes que l'on pourrait considérer comme instinctives tant elles sont nouvelles et non apprises, tant elles sont immédiates et évidentes, des attitudes que l'on pourrait considérer comme une nature humaine tant elle est incontournable, des attitudes de partage et de solidarité. Des gens qui n'ont pas faim alors que se fait cruellement sentir le manque de nourriture. Des gens qui n'ont pas froid quand les couvertures viennent à manquer. Des gens qui n'ont pas peur quand notre sécurité est en danger. Des gens qui tant de choses. Alors oui, il y a toujours quelqu'un ou quelques-uns qui volent la bouffe, planquent les couvertures et ne branlent rien. Mais il y en a et c'est une minorité. Malheureusement, ce chaos, ce désordre, ce flottement sans autorité ne dure pas et ne nous permettant pas de mettre en pratique cette nature humaine, celle à laquelle je crois, s'il y en a une. Alors riez, riez de vos réussites personnelles, avant de pleurer, pleurer de nos échecs collectifs.
Salut, c'était un nouvel opus de ND Chaîne, l'émission du saccage. On se revoit dans deux semaines, alors d'ici là, que chacun, de la manière qu'il estime la plus adéquate, s'oppose au terrorisme d'État et au totalitarisme démocratique.
Tant que la violence de l'État s'appellera justice, la justice du peuple s'appellera violence. Voilà, durant cette émission, vous avez pu écouter Black Flag avec Gimme Gimme Gimme. Vous avez pu écouter Metal Urbain avec Panic.
Et Crève Salope.
Et puis un petit morceau d'House of Pain aussi. Voilà. Dans deux semaines, on laisse la place à Graines de Crapule.
La semaine prochaine.
88.4. Vous pouvez toujours nous écouter sur internet, sur ndchaîne.free.fr. Voilà, on va essayer d'assurer un peu plus les mises en ligne de nos anciennes émissions.
Et vous pouvez toujours nous écrire entre les émissions au 41 rue Jobin. ND Chaîne, 13003 Marseille.
Ou sur notre boîte mail ndchaîne@nolog.org.
Voilà, nique Noël, nique Nouvel An, nique tout.
Monsieur a des fonds.
Et votre Père Noël, mettez le feu à la cheminée.
Monsieur vrai de banque, de pillage. Monsieur pense que les poulets sont devenus pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.